c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Les débats sur la guerre des images rentrent dans le dur aujourd'hui à l'Assemblée avec l'examen de la mesure la plus controversée de la proposition de loi sécurité globale encadrant l'image des policiers. Toute la question est désormais de savoir si le geste d'apaisement du gouvernement hier sera suffisant pour éteindre la polémique.
La cour d'assises, spécialement constituée dans le procès de l'attentat raté du Thalys en 2015, entend depuis ce matin les héros américains qui avaient réussi à désarmer l'assaillant, l'empêchant ainsi de commettre un carnage.
La 5G commence à être déployée en France et ce, malgré l'opposition de très nombreux élus. Invité de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
À l'étranger, direction tout d'abord l'Ouganda.
Oui, là-bas le dernier bilan des violences déclenchées par l'arrestation du principal candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle fait état de 28 morts. Enfin, aux États-Unis, alors que le nouveau président élu, Joe Biden, fête aujourd'hui ses 78 ans, Donald Trump a prévu de recevoir aujourd'hui à la Maison-Blanche plusieurs dirigeants républicains pour tenter de les convaincre de rejeter la victoire de son adversaire. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire, projet de loi contre le séparatisme, proposition de loi sur la sécurité globale. Voilà plusieurs semaines maintenant que l'exécutif se retrouve sous le feu des critiques en matière de respect des libertés publiques, au point qu'il semble de plus en plus nombreux à présent parmi les membres de l'opposition, mais aussi parfois de la majorité, à se demander s'il ne serait pas en train de céder à une dérive liberticide. Toujours est-il que c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin a opéré hier un recul stratégique dans le cadre du débat sur la fameuse proposition de loi macroniste sur la sécurité globale, s'agissant en l'occurrence de l'article 24, le plus controversé du texte pour son ambition d'encadrer la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a indiqué son intention d'introduire un amendement pour garantir la liberté de la presse. Une tentative d'apaiser donc la polémique au moment même où les défenseurs des libertés publiques et les représentants des médias dénoncent aujourd'hui une atteinte à la liberté d'informer. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Quand Gérald Darmanin se voit contraint donc, Pierre, de revoir non seulement sa copie, mais aussi peut-être sa méthode musclée, sans complexe, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle d'un certain Nicolas Sarkozy.
Et depuis sa prise de fonction début juillet, Gérald Darmanin sait être pragmatique, c'est son rôle, comme il sait être disruptif, c'est ce qui détonne. L'illustration aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est cet article 24 de la proposition de loi qui encadre la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Face à la polémique grandissante, la disposition sera amendée en signe d'apaisement pour garantir la liberté de la presse. L'adverbe « manifestement » va être ajouté au texte pour caractériser l'intention de nuire. La décision est venue d'en haut, hier soir à Matignon. Jean Castex a réuni le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, son prédécesseur, Christophe Castaner, devenu président du groupe majoritaire à l'Assemblée. Alors, s'agit-il d'un recadrage du locataire de la place Beauvau ? Non, pas du tout, explique ce matin le porte-parole du gouvernement, juste une clarification. Mais la polémique ne retombe pas au point de diviser la majorité et cela risque de laisser des traces. Le problème, eh bien, il est plus ancien que la dernière proposition du ministre Darmanin de vouloir flouter les visages des policiers et gendarmes en intervention. Cela ne figurait d'ailleurs pas dans la proposition de loi. Le problème, eh bien, il remonte à la publication du schéma national du maintien de l'ordre fin septembre. Il est écrit que pour couvrir les manifestations, les journalistes devront s'accréditer et seront mis en relation avec un officier référent. Alors, sur cette question du floutage, comme sur celle d'une obligation de se déclarer en préfecture, Gérald Darmanin a été obligé d'effectuer ce que l'on appelle un rétro-pédalage. On peut donc parler d'une succession d'erreurs d'appréciation inutiles, d'autant qu'il sera question de sanctions spécifiques pour ceux qui exerceront des pressions sur les agents de l'État. Cela figurera dans le prochain projet de loi confortant les principes républicains. Vous savez, c'est le texte sur le séparatisme.
Merci Pierre Neveu. Face à une contestation là aussi ravivée dans la communauté scientifique et universitaire, mais aussi dans l'opposition de gauche comme de droite, le Parlement devrait toutefois adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi recherche qui devrait faire passer son budget de 15 à 20 milliards par an entre 2021 et 2030. Une programmation de 10 ans, donc beaucoup trop longue et sans assurance sur les investissements futurs, font notamment remarquer ses détracteurs. L'ultime feu vert parlementaire parlementaire est attendu à la mi-journée au Sénat, l'Assemblée ayant déjà adopté le texte mardi dernier. Depuis plusieurs années déjà, il est devenu la grande messe du consumérisme, son nom. Le Black Friday, ou quand le dernier vendredi de novembre se transforme en symbole de la surconsommation. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'en opposition, un autre mouvement est lui né plus récemment, le Green Friday, pour consommer moins mais mieux. Sauf qu'en pleine crise, le Black Friday serait soudain devenu le moyen par excellence de sauver notre économie grâce à la vente en ligne, mais aussi des promotions de nature à soulager le porte-monnaie des Français. Dès lors, et en attendant que soit validée la date de réouverture des commerces dits non essentiels, toujours aux abois à l'approche des fêtes de fin d'année, les offres promotionnelles du Black Friday seront-elles suspendues ou simplement reportées? Une réunion prévue à Bercy cet après-midi devrait permettre d'en savoir plus. En attendant, l'UFC Que Choisir met en garde de son côté contre les nombreuses arnaques et fausses promos de cette opération marketing. L'association a d'ailleurs mis en demeure ce matin 6 enseignes faisant de la vente en ligne afin qu'elles mettent fin à leur campagne publicitaire insensée, mais aussi à l'instrumentalisation des prix et promotions. Je vous propose d'écouter son président Alain Bazot, joint au téléphone par Anne-Laure Jumet.
Les soldes, c'est le seul moment où on peut vendre à perte. Quand un commerçant vous dit « je vous fais du moins 80 ou moins 90% », de deux choses l'une, ou en dehors de cette promo, il vend à un prix ultra cher, ce qui paraîtrait étonnant parce qu'il ne vendrait pas, soit que le prix de référence, il est complètement bidon. Donc, on a fait cette mise en demeure, on verra en fonction du résultat comment on déclenche un certain nombre de poursuites, mais on manque d'encadrement législatif. Et c'est pour ça que Black Friday s'est développé en France. C'est parce que sur un terrain vierge de toute réglementation, on fait strictement ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, ça conduit à annoncer des choses mirobolantes qui sont bidons et les consommateurs n'ont pas nécessairement la faculté de contrôler, de vérifier et de ne pas se faire avoir. Il y a un tel engouement, une espèce d'hystérie entretenue par tout le monde, hein, je veux dire, alors que nous, on sait très clairement que c'est pas là que les gens vont faire des affaires pour leur pouvoir d'achat.
Et donc, reporter cet événement ne fait que reporter le problème. Il y aura cette même attente le 4 décembre.
Mais exactement. On décale le moment où on va se faire avoir. Vaudrait mieux sécuriser ces promotions plutôt que de les laisser à volo, comme ça a été le cas, et je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, puissance 10, dans le contexte qu'on connaît actuellement. C'est exacerbé par le pouvoir d'achat. C'est légitime que les gens aient envie de faire de bonnes affaires. On voit bien que les pouvoirs publics n'ont qu'un objectif, c'est que les gens y dépensent, ils achètent, ils consomment. On s'occupe pas de savoir s'ils font des bonnes affaires réellement ou pas.
Voilà, Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, il répondait à Anne-Laure Jumet. Dès le mois de prochain, les consommateurs pourront s'abonner à la 5G et acheter leur premier forfait. Alors pour l'instant, les fréquences qui offriront un débit extrêmement élevé ne sont pas encore accessibles. Sans compter que pour l'heure, les opérateurs de téléphonie mobile préparent toujours et encore le terrain en installant de nouvelles antennes, du moins quand ils le peuvent, car ils doivent pour cela demander aux communes des autorisations, hors certaines villes qui s'inquiètent des dangers de cette nouvelle technologie dont on ne connaît pas les impacts sanitaires, y sont encore réticentes. C'est le cas notamment à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne où la mairie tente de s'opposer à ces nouvelles installations. C'est un reportage de Tara Schlegel.
Depuis janvier, 11 dossiers ont été déposés dans cette mairie. Qu'il s'agisse de modifier des antennes 4G existantes ou d'implanter de futures antennes 5G, les dossiers des opérateurs sont instruits par le service d'urbanisme. Or, il a peu de moyens, insiste la conseillère municipale déléguée à la santé environnementale.
L'instructeur du droit des sols, il va pas se demander est-ce que c'est dangereux pour la santé, est-ce que les riverains sont opposés à ce dossier ou pas. Non, il a simplement une grille de lecture strictement technique d'urbanisme. Il va regarder la hauteur, le fait que l'on voit certains éléments depuis la voie publique ou pas.
Et sur la base de cet avis, le maire signera ou non un arrêté d'autorisation. Mais, poursuit Anne Viennet, même s'il veut s'opposer, eh bien l'opérateur Orange, Bouygues, SFR attaquera devant le tribunal administratif qui donne systématiquement tort au maire, car il n'a pas de pouvoir de police en termes de radiofréquence. Si le dossier est techniquement parfait, alors il passera. Mais il y a autre chose. Depuis un an, les opérateurs ajoutent de drôles de demandes dans leur dossier. Anne Viennet.
Soit des antennes leurre, soit des antennes inactives, soit des antennes 2.0. Ben voilà, plein de noms ont été utilisés pour tourner autour du pot, pour ne pas dire des antennes 5G. Et donc, nous avons déjà des antennes, de fausses antennes, ou des gabarits, ou des autorisations en tout cas qui ont été délivrées. Et une fois ces autorisations obtenues par les opérateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les toits. Et ça, c'est très problématique parce que quelque part, il y a eu tromperie.
Installer une antenne rapporte au moins 12 000 euros au propriétaire chaque année. Et l'opérateur s'engage à les verser pendant 12 ans, souvent d'avance. Un véritable pactole qui incite certains à accepter cette future technologie.
Et pour continuer d'évoquer cette question de la 5G, invité de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on vient de l'entendre, pour pouvoir installer donc ces nouvelles antennes, les opérateurs doivent faire aujourd'hui une demande en mairie, suivie soit d'une déclaration préalable de travaux, soit d'une demande de permis de construire. Or, certaines communes ne veulent pas de la 5G, sauf que juridiquement, les opérateurs n'ont pas besoin de l'avis des édiles. Dès lors, est-ce que on risque des passages en force ?
Oui, c'est le risque. Effectivement, c'est bien l'État qui donne l'autorisation aux opérateurs à travers ces fréquences qui sont données donc à Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. Pour autant, nous avons invité et le gouvernement et l'ARCEP, les opérateurs à être vraiment dans le dialogue avec les élus locaux. On sait que le maire, c'est l'élu préféré des Français. C'est quelque chose... on sait qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la solidité de notre démocratie aujourd'hui. Et cette 5G, bien sans doute que les élus locaux ont un rôle à jouer pour aider à son appropriation. Et donc nous invitons vraiment les opérateurs à toujours être dans le dialogue avec les maires.
On le sait, cette 5G donc pose un grand nombre de questions. Il y a des enjeux en matière de santé, mais aussi d'environnement, s'agissant par exemple de l'augmentation des données et puis du démantèlement des antennes. Que peut une autorité comme la vôtre pour prendre en compte toutes ces questions ?
Alors, bien heureusement, c'est pas nous qui sommes en charge des enjeux sanitaires, parce que ce sont vraiment des autorités spécialisées, l'ANSES, qui fait réaliser des études internationales de scientifiques extrêmement sérieuses. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà été réalisées hein, sur les réseaux mobiles, fort heureusement. Il faut mener des études complémentaires sur ces nouvelles fréquences qui sont en train d'être données. Elles sont en cours et c'est très bien ainsi. Et si un jour les autorités sanitaires voient le moindre problème sur les réseaux 5G, eh bien, il faudra évidemment les arrêter. Sur les enjeux environnementaux, on est dans une problématique différente parce que, au fond, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut préjuger d'une technologie comme quoi elle serait néfaste par construction vis-à-vis de l'environnement. Et là, il nous semble que le process serait un peu court, puisque la 5G peut aussi amener, par exemple, une gestion de la ville intelligente qui permet de fluidifier le trafic, d'éviter certains déplacements avec, aujourd'hui, on le voit en période de confinement, la visioconférence et d'autres applications. Donc le numérique aussi peut être positif pour l'environnement. Par ailleurs, ce que disent les opérateurs, c'est qu'il y aurait sur les antennes 5G une meilleure efficacité énergétique qui aurait été prise en compte. Donc le bilan n'est pas si évident. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est de mettre en place un suivi extrêmement précis de ces impacts environnementaux, de mettre chacun en capacité de savoir notamment ses usages. Quel est mon impact quand je regarde une vidéo Netflix aujourd'hui sur des informations qu'on n'a pas forcément en détail, de manière à mieux responsabiliser et les opérateurs et les consommateurs.
Récemment, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a créé son propre comité de transparence et de suivi de la 5G, mais dont il a exclu les associations agréées, santé et environnement. N'y a-t-il pas là une manière de contourner le dialogue démocratique ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que il existe un comité spécifiquement dédié aux questions de santé et d'exposition aux ondes, qui est géré par l'Agence des fréquences, qui se réunit très régulièrement et où ces associations que vous citez sont tout à fait présentes. Le comité de dialogue qu'a voulu créer le ministre Cédric O, c'est d'abord un comité vis-à-vis des élus locaux sur cette question de la bonne information, et il a prévu notamment une généralisation donc de ces dossiers d'information qu'on a mentionné dans le reportage, et d'autre part la faculté nouvelle pour les maires de pouvoir demander des études beaucoup plus précises sur l'exposition aux ondes. Donc je pense que ces deux enceintes sont essentiellement complémentaires.
Une dernière question, monsieur Soriano. Il y a quelques jours seulement, le gouvernement présentait des mesures pour favoriser l'inclusion numérique. 13 millions de personnes aujourd'hui sont éloignées du numérique. Est-ce que la couverture 4G, qui est inégalement terminée, ça n'est pas là finalement la priorité ?
Ben écoutez, là encore, je crois qu'il y a une vraie complémentarité, hein. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte dans le premier confinement, c'est que, par exemple, sur l'accès à l'école à distance, finalement, dans des zones urbaines où il y a du réseau, eh bien, il y a des situations sociales, des enjeux culturels qui peuvent créer des obstacles. Sur l'accès au numérique, il y a eu un certain nombre de décrochages, hein, d'élèves qui ont été mentionnés par beaucoup de professeurs, qui sont dus à des enjeux de maîtrise des outils plus que de connectivité. Pour autant, et donc il y a bien une nécessité de travailler spécifiquement ce sujet de ce qu'on appelle l'électronisme. Maintenant, bien évidemment, je tiens aussi à vous rassurer sur le fait qu'il y a une ambition très forte sur la couverture 4G de la ruralité. Il y a un programme qui a été conclu en 2018 et qui va continuer à battre son plein ces prochaines années pour amener du réseau là où il n'y en a pas.
Merci Sébastien Soriano, président, je le rappelle, de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Parmi les Américains considérés comme des héros pour avoir déjoué l'attaque d'un djihadiste dans un train Thalys entre Amsterdam et Paris, c'était en 2015. Deux d'entre eux avaient effectivement réussi à maîtriser l'assaillant. Ils devaient être entendus aujourd'hui par la cour d'assises spécialement constituée. L'un a finalement fait un malaise hier à son arrivée à Roissy. C'est ainsi que la cour a donc entendu ce matin son ami Alexander Skarlatos faire le récit de l'attaque et de leur intervention. Compte rendu d'audience signé Florence Turme.
Costume, cravate et chemise blanche, épaules carrées, cheveux coupés en brosse courte, très droit à la barre des témoins, Alexander Skarlatos livre un récit sobre et précis de l'attaque du Thalys. Une heure entière pour raconter ce qui n'a duré que quelques minutes. Spencer et moi, nous étions endormis, j'ai entendu une déflagration comme une vitre qui éclatait. J'ai senti que le temps s'arrêtait, mon cœur descendait dans ma poitrine, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Spencer s'est réveillé à ce moment-là, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit « Go Spencer ». Je n'avais même pas encore réalisé, il était déjà en train de foncer sur le terroriste qui commençait à charger son fusil AK-47 et à le braquer. Alexander Skarlatos se lève à son tour pour prêter main forte à son ami. Les deux hommes peinent à maîtriser Ayoub El-Razani. Plusieurs témoins l'ont déjà décrit comme étant dans un état second. J'ai pris son pistolet, reprends le témoin, j'ai dit deux fois « stop resisting » et j'ai appuyé sur la gâchette, mais le coup n'est pas parti. Le jeune Américain n'en avait pas fait état lors de son interrogatoire par la police, craignant de pouvoir être inquiété. La défense de l'accusé rebondit d'ailleurs sur cette déclaration, tandis que l'avocat d'Alexander Skarlatos évoque la légitime défense. Ce dernier va finalement utiliser la kalachnikov du terroriste pour le frapper à la tête, puis placer l'arme en sécurité. À ma grande surprise, indique-t-il encore, une balle est sortie, ce qui veut dire qu'il avait appuyé sur la gâchette. Un soupir et qu'on avait eu beaucoup de chance. Son avocat rappelle son expérience du combat en tant que militaire. C'était une scène d'une intensité violente supérieure à celle que vous avez connue en Afghanistan, interroge Thibault de Montbrial. Et le témoin n'hésite pas une seconde, bien plus intense.
Conforté dans sa victoire par un recomptage des bulletins dans l'État-clé de Géorgie, Joe Biden a dénoncé hier l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump, lequel refuse toujours d'accepter sa défaite à l'élection présidentielle, car le milliardaire n'entend pas s'arrêter pour autant en si mauvais chemin. Son combat juridique vise désormais à faire dérailler la certification de l'élection et rendre ainsi plus confuse encore la transition présidentielle piégée par l'absence de règles strictes. En attendant, le président élu, lui, n'a toujours pas intégré le bureau ovale. Il ne sera officiellement investi que le 20 janvier prochain. Que déjà la question se pose, outre-Atlantique, sera-t-il le président d'un seul mandat? Ce lion de l'histoire américaine, selon les propres termes de Barack Obama, fait aujourd'hui même ses 78 ans. Ou dit autrement, cela signifie que s'il était réélu en 2024, il aurait 86 ans au moment de quitter le pouvoir en 2029. La question de son âge aura d'ailleurs été, durant toute la campagne, à l'origine de très nombreuses attaques de la part du camp républicain, au point, Gregory Phillips, que le candidat démocrate avait dû lui-même reconnaître qu'il s'agissait là d'une interrogation légitime.
Ces deux dernières années, à la télévision, dans les journaux, à la radio, la question est revenue sans cesse. Joe Biden est-il trop vieux pour briguer la Maison-Blanche? Il répond à l'automne 2018 sur CBS. Est-ce que j'arrive encore à courir en montant l'escalier? Suis-je toujours en forme? Ai-je toutes mes facultés et mon énergie? Je pense qu'il est tout à fait légitime que les gens s'interrogent. Lors de la campagne pour l'investiture du parti, ce sont ses adversaires démocrates qui l'attaquent sur son âge. Ici, l'ancien secrétaire au logement d'Obama, Julian Castro, qui lors d'un débat demande à Biden s'il a oublié ce qu'il vient de dire 2 minutes plus tôt. Puis Trump s'empare de la question, rebaptise son adversaire Sleepy Joe, Joe l'endormi, et plus la présidentielle approche, plus les attaques sont violentes. Le camp républicain accuse le démocrate de sénilité en reprenant en boucle l'extrait de cette interview télévisée où Biden semble confondre Donald Trump et George Bush. Depuis, Joe Biden n'a eu de cesse de démontrer qu'il était en forme, en pleine possession de ses moyens malgré 2 AVC à la fin des années 80. Mais en prenant Kamala Harris comme colistière, il a aussi choisi quelqu'un de beaucoup plus jeune, 56 ans, qui pourrait être candidate à sa place en 2024 à l'issue d'un premier mandat.
C'est une défaite de plus pour Donald Trump. Le Remdesivir, cet antiviral vanté par le milliardaire, bien que considéré comme inefficace par l'OMS, a été définitivement mis hors jeu dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Outre la possibilité de favoriser d'importants effets secondaires, ce médicament n'évite ni les morts, ni les formes graves de la maladie, a rappelé ce matin l'agence onusienne, qui recommande donc de ne pas l'administrer aux malades hospitalisés. Le problème, c'est que depuis le 3 juillet dernier, date à laquelle le Remdesivir est devenu le premier médicament contre le virus à recevoir une autorisation de mise sur le marché européen conditionnel, eh bien, l'UE a déjà passé commande à son fabricant. Explication à Genève, au siège de l'OMS, signé Jérémy Lange.
Qu'il s'agisse de cas graves ou de cas plus légers, le Remdesivir ne doit pas être administré aux malades de la Covid-19, dit l'OMS. En cause de potentiels effets secondaires et le coût important du traitement, cette annonce est une demi-surprise pour le professeur de santé publique à l'Université de Genève, Antoine Flau.
On est déçus, je veux dire, on n'a pas beaucoup de médicaments. Le Remdesivir semblait un peu prometteur parce que les premiers essais avaient montré une diminution de la durée d'hospitalisation lorsqu'il était prescrit suffisamment précocement. C'est un petit peu le coup de grâce.
Le mois dernier, l'Europe a pourtant passé commande pour 500 000 traitements de Remdesivir à l'américain Gilead. Un contrat à 1 milliard d'euros, dommageable mais presque inévitable, estime l'épidémiologiste.
Si aujourd'hui les résultats de l'essai avaient été dans l'autre sens, est-ce que vous ne m'auriez pas posé la question, pourquoi ne donne-t-on pas davantage de personnes ce médicament très prometteur, etc.
Le Remdesivir officiellement mis sur la touche, cela veut dire qu'aucun des 4 traitements testés par l'OMS n'a prouvé son efficacité. Pouvoir les écarter est déjà une avancée, dit encore Antoine Flau. L'OMS doit désormais annoncer quelle suite elle compte donner à son essai international et quel nouveau traitement pourrait y être intégré.
Voilà une polémique dont se serait certainement bien passé l'OMS, justement déjà en pleine introspection sur sa réponse à la pandémie. Hier, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros, a été accusé par le chef de l'état-major d'Addis Abeba de soutenir la région dissidente du Tigré. Pis encore, puisque aux yeux de l'armée, l'homme, ancien ministre de la Santé puis des Affaires étrangères, lorsque le Front de libération du peuple tigréen monopolisait le pouvoir dans la capitale, travaillerait à fournir, selon lui, des armes. Seule certitude, ce conflit dans le nord du pays, qui en 2 semaines a déjà fait des centaines de morts, a par ailleurs envoyé plus de 36 000 réfugiés au Soudan voisin, mais également remis en question la capacité du Premier ministre, lauréat du prix Nobel de la paix l'an dernier, à maintenir la cohésion de sa nation ethniquement divisée. En Ouganda, là-bas, la situation reste pour le moins chaotique, 2 jours après les heurts déclenchés par une énième arrestation du candidat à la prochaine présidentielle, député d'opposition et star de la chanson, Bobi Wine, pressenti comme le principal adversaire du septuagénaire Museveni au pouvoir dans le pays depuis 1986. Le dernier bilan des affrontements dans la capitale est désormais de 28 morts. Alors, qui est réellement Bobi Wine? De son vrai nom, Robert Kyagulani, l'homme âgé aujourd'hui de 38 ans, a été élu député, c'était en 2017, avant de devenir le porte-parole de cette jeunesse urbaine, souvent très pauvre, et qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président sortant. Son portrait est signé Omar Waman.
Surnommé le président du ghetto, Bobi Wine n'en est pas à sa première arrestation. La bête noire du président ougandais, Yoweri Museveni, est même un habitué des commissariats et des prisons de Kampala, la capitale, quand il n'est pas assigné à résidence. Porté par une jeunesse dont il est devenu l'icône, Robert Kyagulani, plus connu sous le nom de Bobi Wine, est devenu ces dernières années le principal opposant au président sortant, au pouvoir depuis 1986 et qui briguera en février 2021 un sixième mandat après une réforme de la Constitution. Le combat de l'ancienne star du raga ougandais, chassé Yoweri Museveni du pouvoir après avoir tenté en vain d'empêcher sa candidature. Vénéré par une partie de la population, notamment dans le quartier populaire de Kyadondo à l'est, en périphérie de la capitale, Bobi Wine croit en son destin. Il y a 3 ans, candidat indépendant, il est élu député en battant les représentants de l'opposition historique, mais aussi de la majorité gouvernementale. Aussi charismatique que populiste, Bobi Wine a un slogan, le pouvoir du peuple est notre pouvoir. Sa réputation a dépassé les frontières de l'Ouganda, au Kenya, au Nigeria, de nombreux jeunes s'en réclament. Son énième arrestation est devenue une affaire internationale, symbole d'un régime ougandais prêt à tout pour se maintenir au pouvoir.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Agité en Corse avec de fréquentes averses orageuses et généralement sec avec un ciel variable partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 7 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h et tout juste 56 minutes sur France Culture, l'heure de vous retrouver Lucille Como pour la critique deuxième partie.
Merci Thomas Cluzel et à bientôt. La critique se poursuit et nous continuons à parler de musique. Charles Ardenne en studio a coiffé sa casquette musique classique et nous sommes en ligne avec Anna Sigalevitch, journaliste et auteure. Dans quelques instants, nous parlerons de Good Night, le dernier disque du pianiste Bertrand Chamaillou, mais tout de suite, retour à l'opéra. Samedi dernier, la fosse et la scène de l'Opéra Comique étaient aussi pleines que la salle vide. Le chef Raphaël Pichon et la metteuse en scène Jeanne Candel avaient décidé de jouer quand même et d'offrir aux spectateurs d'Arte leur version d'Hippolyte et Aricie. On peut depuis le revoir gratuitement sur la plateforme de la chaîne. Alors, c'est un opéra monstre, Hippolyte et Aricie, un opéra de Rameau, créé pour la première fois en 1733, jalon déterminant dans l'histoire du genre. On y suit les aventures mythiques de deux jeunes gens dont l'union est compromise. Aricie est destinée au culte de Diane, Hippolyte est l'objet d'un funeste amour, celui de sa belle-mère Phèdre. Et quand la mort du roi Thésée est annoncée, la tragédie s'emballe. Alors Jeanne Candel choisit de camper cette histoire dans un décor au référent très hétéroclite. Le spectacle ouvre d'abord devant une toile blanche, rapidement tachée de jets de couleurs, qui dévoile ensuite un décor industriel métallique avec un ascenseur et des escaliers, le tout très sombre. Les chanteurs et le chœur portent des tenues qui évoquent différents lieux et périodes, le siècle de Louis XIV, l'Antiquité, les années 30, parfois des marionnettes ou un cerf fantasque apporte une touche burlesque à l'ensemble. Un regard, d'abord sur ces choix de mise en scène, Anna Sigalevitch.
Sur ces choix de mise en scène, oui, en effet, c'est assez hétéroclite. On sent très bien les influences de Jeanne Candel, du Régie-Théâtre. Hein. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle un petit peu peut-être ce que c'est le Régie-Théâtre, ce moment à la fin des années 70, début 80, où les metteurs en scène vraiment prennent une certaine liberté et deviennent auteurs des spectacles. Donc ça permet en effet ce côté hétéroclite et dans les décors beaucoup et dans la mise en scène, hein, où il y a presque des moments qui ressemblent à des happenings. Voilà, c'est l'esprit de Jeanne Candel. Moi, c'est un esprit que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé la plupart de ses spectacles précédents. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, en termes de cohérence dramaturgique, je pense qu'il y a des choses à dire. Mais alors, je pense quand même une chose, c'est que Jeanne Candel... le quatrième mur, justement, il n'existe pas dans ces spectacles. Et il y a vraiment une interaction toujours avec les spectateurs. Il y a une adresse particulière au public qui, là, bien évidemment, est absent. Et le quatrième mur est là, bien évidemment, puisqu'il y a cet écran à travers lequel on regarde le spectacle. Donc, je pense que ça n'aide pas beaucoup le type de théâtre qu'elle défend et qu'elle prône depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années.
Et notamment peut-être sur la manière dont les acteurs jouent sur scène, ça doit être assez compliqué pour eux. Charles Ardenne, un regard sur la mise en scène d'Hippolyte Arici.
Absolument, pour rebondir sur ce que dit Anna Sigalevitch tout à fait, les précédents spectacles de Jeanne Candel réalisés avec Samuel Achache, le Crocodile Trompeur d'après Didon Henné, ou Orfeo, Je suis mort en Arcadie d'après le premier chef-d'œuvre lyrique de Monteverdi, en effet, intégraient le spectateur au spectacle. Là, on n'a pas du tout ça, et elle s'en rend compte à la toute fin en nous rajoutant une espèce de post-logue.
D'épilogue.
Ouais, d'épilogue, pardon, tout à fait. Mais épilogue, ça rentre dans l'histoire, alors que là, bon, on a Léa Desandes qui vient avec...
Qui est une des chanteuses de la production.
Absolument, elle vient avec son vélo sur scène pour bien nous montrer « Ah, attention, là, on revient au monde réel, on a un observateur extérieur ». Et j'ai malheureusement trouvé que toute la mise en scène, tout le entre guillemets, propos de la mise en scène était de cet acabit, c'est-à-dire des réflexions à la fois littérales, mais qui n'ont même pas l'intérêt de la candeur. Très simple, comme disait Anna, il y a les références au régitéateur, mais alors c'est vraiment massif et c'est vraiment simpliste.
Alors par exemple
Tous les exemples en fait de toute cette production, ça se passe, vous l'avez dit, dans le temple de Diane, donc on a des chasseurs, donc on fait rentrer le cœur avec des fusils. Voilà, il tire en fait de la peinture, ce qui est une, je ne sais pas si c'est une citation ou une pâle copie de Niki de Saint-Phal, de l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Ensuite, bon bah il y a une matelote, alors on va la présenter en sirène de cabaret. Les chasseurs reviennent, donc il y en a qui ont un petit masque de chien, mais vous savez un peu de la qualité des foirefouilles là ou d'Halloween. Et bon, il faut bien qu'ils aillent se frotter sur un arbuste pour faire un peu amusant, mais ils le font mollement. Même ça, c'est même pas véritablement investi, etc., etc. Et si on creuse encore un peu plus loin, il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette tragédie, qui sont esquissées ici. Par exemple, le fait qu'il y a un seul... En fait, il y a un seul décor. Parce que d'abord, c'est une toile qui ensuite révèle ce que vous avez très bien décrit, cet immeuble à l'os avec un ascenseur. Pour la descente aux enfers, bon, c'est un peu simpliste, mais bon, pourquoi pas.
Et puis c'est assez beau, pour le coup. Ah oui, esthétiquement, beau, la mise en scène est belle.
Allez, oui, c'est beau jusqu'à ce qu'il y ait donc les rivières de sang qui coulent sur l'escalier et des hommes et femmes d'entretien avec des jolies charlottes qui viennent nettoyer tout ça. Encore une fois, régitéateur assez simpliste. Ce qui est intéressant, par contre, ensuite, c'est qu'on reste dans ce plateau. Et donc, ça renvoie en effet à cette œuvre où, lorsque Thésée sort des enfers, il y reste d'une certaine manière, il retourne dans son palais, mais en fait, il rentre encore plus profond dans le drame, puisqu'évidemment, tout va se passer avec Phèdre. Certes, mais ça, c'est même pas bien travaillé. Et vous disiez tout à l'heure, c'est très sombre. En effet, c'est très sombre, mais d'un coup, il faut rallumer la lumière pour faire comme la foire où on jette les harengs, là, à Dunkerque, pour faire un épisode de divertissement. Ensuite, on revient dans le drame, on réallume, et voilà, jour-nuit, et peu d'intérêt, j'ai trouvé.
Anna Sigalevitch, moins sévère non, là, que Charles.
Non, franchement, ah oui, non, non,
on vous entend,
beaucoup,
vous
beaucoup
entend.
Moins sévère. Oui. Non, je suis d'accord que la cohérence dramaturgique n'est pas évidente à trouver, mais pour moi, il y a quand même une montée en puissance dans le spectacle, notamment à partir de la fin de l'acte 4, avec le grand air magnifique de Phèdre, hein, quelle plainte en ces lieux m'appelle, et puis qui tient jusqu'au bout, où il y a quelque chose qui se construit, notamment dans la caractérisation des quatre personnages principaux, hein, qui sont donc Hippolyte Arici et Phèdre et Thésée, où moi je les ai quand même sentis victimes de leurs sentiments. Je trouve qu'il y a une noblesse dans la caractérisation de ces quatre personnages, qu'il n'y a pas de maniérisme, et ça prend petit à petit avec donc Charles parlait de Rossignol amoureux, et je dirais avec cette fin que je voudrais pas dévoiler, parce que je pense qu'il faut, si on regarde cette captation, aller au bout.